la provincialisation. Alors, province, ça ne s'utilise plus beaucoup. On parle de région. Province était un peu péjoratif. Moi, j'ai trouvé ça toujours assez joli, la province. C'est la France, quoi. La...
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans un nouveau numéro de Zoom Zoom Zen, l'émission qui taquine notre époque sans oublier de la décrypter. Chaque après-midi, on zoome sur un mot, un concept dans l'air du temps et on demande à un spécialiste de nous l'expliquer. Un petit mot aujourd'hui avant de commencer d'un camarade qui depuis hier ne vit plus, il survit. Troisième prix du conservatoire de flûte à bec de Pontecombo, 8 sur 20 à l'option musique du bac, Cyril Lacarrière, également rédacteur en chef de cette émission, ne comprend pas comment un orchestre qui fait le buzz en ce moment sur Instagram et qui était fait pour lui a pu se passer de ses services. Oui, des auditeurs fidèles de notre émission qui savent la virtuosité de Cyril m'ont écrit pour me signaler les vidéos du London Vegetable Orchestra.
Ces gens
un orchestre composé exclusivement de légumes à vent, si on peut dire, imitant qui la flûte, qui la trompette, et où Cyril aurait fait un formidable soliste carotte. Hélas, rien. Le téléphone n'a pas sonné. M'en fous, de toute façon, j'aurais pas joué avec les roast beef, ils ont brûlé Jeanne d'Arc. Réagira Cyril, visiblement affecté quand même, au fond de lui. Bref, le message est passé. S'il reste une place au London Vegetable Orchestra, Cyril est bougon, mais il se tient prêt.
Bah non, moi je préfère qu'on fasse ça avec de la viande. Oh. Quand est-ce qu'on peut jouer dans une côte de bœuf ?
Faut lancer le concept.
Là, ça m'intéresse. Je pense que vous pouvez, Cyril, leur proposer. Si le résultat, musicalement, est à la hauteur, ils vous prendront avec eux. Quant à nous, on va zoomer cet après-midi sur ce qui est depuis bien longtemps maintenant le rêve de Manon, la provincialisation. Et si la France adoptait un modèle à l'allemande, en rompant avec la verticalité jacobine pour inventer un fédéralisme des régions, une vraie décentralisation ? Notre invité, vous allez voir, y croit, mais nous, peut-on vraiment imaginer une France fédérale ? Pourra-t-on un jour surmonter ce mépris parisien de la province, si tragiquement illustré par Manon Mariani et sa phrase culte prononcée à l'encontre d'un collègue qu'elle venait à peine de rencontrer ? Quentin, il a l'air sympa, mais il sent la ferme. Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
C'est pas cette phrase-là. Il sent l'agriculture.
Il sent.
Vous reveniez du salon de l'agriculture. Oui. C'est quand même pour ça, faut le préciser.
C'était pour ça, évidemment, voilà, Manon. Aucun mépris. Jamais, jamais, jamais de votre part. Bonjour, Grégory Berkovitch.
Bonjour, Mathieu.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Grégory, vous êtes avocat, expert en droit public des affaires. Vous dirigez d'ailleurs un des plus gros cabinets en conseil en la matière. Vous avez été élu municipal à Caen et votre combat, c'est de faire de la France une fédération en s'appuyant sur nos provinces. On appelle ça la provincialisation. Vous sortez d'ailleurs ce livre, Libérons, pardon. Il est englué dans mon Zoom Zoom Test et je n'aimerais pas que les enfants voient les réponses à l'avance. Libérons nos provinces, manuel pour transformer la France en République fédérale. C'est aux éditions L'Archipel. Vous allez donc nous expliquer pourquoi et surtout comment vous comptez y parvenir. Juste le temps de vous présenter deux journalistes pas du tout d'accord sur la décentralisation, à commencer par Manon, pour qui les décisions doivent évidemment être prises à Paris. Hein. Je la cite, on ne peut pas laisser les provinces décider par elles-mêmes. Toutes les initiatives décentralisatrices se sont soldées par des échecs cuisants, ne serait-ce que sur le plan de l'aménagement urbain. Regardez Angers.
Mon Dieu, avec le gros Bershka, là, oh là là, sur la place du village. Oh,
la ville, Manon.
Mais vraiment, c'est sonore, j'ai honte.
Oui, si vous êtes une indéfectible jacobine, on l'a raconté. Vous êtes intéressée à notre sujet du jour.
Oui, à travers le profil d'une militante engagée pour la jeunesse issue de la ruralité. Ça va, Quentin ? On ne vous dérange pas ? Je vous la présente en fin d'émission.
Face à vous, Grégory, lui, le modèle allemand, il n'est pas contre. Je vous rappelle son surnom dans l'équipe, Adolfo Ramirez.
Ouais,
Quentin, lui, n'est pas un idéologue, mais un pragmatique qui sait s'adapter à chacune des époques qu'il traverse. Et, vu qu'il connaît par cœur le répertoire de Marcel Amont, il en a traversé des époques. Hein. Lily Marlène, il l'a chanté. Quentin, chaque après-midi, vous faites réagir des passants à notre mot du jour. Alors, la provincialisation... Ils sont pour, les gens.
Je suis pour.
Bon, bref, oh non.
Le mot provincialisation.
Beaucoup trop de dérapages,
en fait.
Pas assez de temps.
Revenons sur le mot provincialisation qui passe moyen. L'idée, en revanche, oui, avec des arguments qui tiennent la route, on parle dans les rues de Paris de décentralisation du pouvoir avant 16h30.
Aux alentours, justement, de 16h30, frissons en vue pour Éric Ciotti. Nice est-elle vraiment en France ? La saucisse de Montbéliard est-elle vraiment de Montbéliard ? Quel lien y a-t-il entre le tonton milliardaire de Quentin et la Savoie ? Eh bien, les réponses vous attendent dans un Zoom Zoom Test spécial secret de nos provinces. Juste avant 17h, le virevoltant JC, et non pas JC, comme on le surnomme trop rapidement, nous rejoindra. Mais d'abord, Grégory Berkovitch, on va revenir sur la question fondamentale, parce que ce terme de provincialisation, on l'a déjà entendu, les gens ne sont pas forcément attirés par ce terme, pas forcément ce que vous voulez en faire, mais le terme lui-même. C'est quoi une province ?
Alors, une province, le terme vient d'origine latine. Une province, c'était un territoire disposant d'une grande autonomie par rapport à Rome, mais administré par un représentant de Rome. Voilà. Donc on est complètement dans ce concept finalement d'un territoire qui appartient bien à une certaine centralité, en l'occurrence Paris, ma chère Manon, rassurez-vous, mais qui a une autonomie de décision par rapport à cette centralité. Alors après, le mot province renvoie aussi à la période de l'Ancien Régime, la période féodale, où on parlait des provinces françaises, terme qui est d'ailleurs resté très longtemps, puisque quand on regarde les manuels d'enseignement, jusque 19e siècle, on retrouve ce terme des provinces. Je dis bien les provinces et non la province, terme un peu méprisant, oui, effectivement, voilà. Inventé par Manon.
Je suis pas la seule, quand même.
Sachant que Paris est une province, évidemment.
Évidemment, on va y revenir. En matière de fédéralisme, pourquoi ne pas s'inspirer de ce qu'ont fait les Allemands, dira l'homme de bon sens. Parce qu'on n'est pas des schleux, répondra Cyril Lacarrière, rédacteur en chef bourru et patriote de cette émission. Bonjour Cyril.
Bonjour Mathieu, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Alors, racontez-nous, vous qui êtes évidemment opposé, d'où ça sort.
Je sais pas pourquoi on a...
L'accordéon, mais si.
Ah, patriote, c'est ça?
Oui, c'est l'accordéon.
Ok, si tu veux.
Oui, j'avais mis Douce France, mais là, évidemment, ce n'est pas Douce France, je ne sais pas ce que c'est de la musette, mais c'est beau. Racontez-nous, Cyril, d'où ça sort non pas la provincialisation, mais leur exemple le plus frappant, le système des Länder allemands.
Eh bien oui, puisque notre sujet du jour s'inspire aussi du système administratif allemand, je propose qu'on s'intéresse à ces fameux Länder. Ils ne sont pas vieux, en fait, même pas 80 balais, 76 ans exactement. En fait, c'est après la Seconde Guerre mondiale que tout bascule. Avant ça, l'Allemagne, c'était un bloc ultra-centralisé, tout partait de Berlin, c'est comme ça qu'est né le régime nazi.
Tu nous manques Hitler.
Ja, danke schön Manon. Mais c'était déjà le cas sous l'Empire et la République de Weimar. Alors évidemment de manière moins brutale et contrôlée que lors de la prise de pouvoir d'Hitler. D'ailleurs, il y avait déjà des Länder, mais disons que c'était un peu le bordel. Chacun fonctionnait comme il l'entendait. Après la guerre, tout change. Déjà, l'Allemagne est divisée en deux. Elle ne se contrôle plus. Elle contrôle plus son destin. Les États-Unis, la France et le Royaume-Uni ont pris possession de l'Ouest et l'URSS de l'Est.
Alors qu'est-ce qui se passe ?
Eh bien, en 1949, la République fédérale d'Allemagne vote ce qu'on appelle une loi fondamentale, la Grundgesetz, oui, comme ça, aussi appelée la Constitution de Bonn. L'idée, c'est de mettre sur pied une nouvelle constitution pour éviter à tout prix un retour à la centralisation extrême qui aurait permis la montée du nazisme. Même si l'Allemagne reste un État fédéral, les 11 Länder d'origine, il y en a 16 aujourd'hui, se voient attribuer de nombreux pouvoirs. Ils ont leurs propres institutions, des parlements, des ministères pour gérer, par exemple, l'éducation, la police ou la culture. Une façon de disséminer le pouvoir pour éviter qu'un jour, il ne tombe entre les mains d'un seul homme. Alors, est-ce que ces Länder à l'allemande, ça marchera en France ? Pourquoi c'est un problème, finalement, la centralisation ? Est-ce que ce n'est pas rajouter une couche au millefeuille administratif ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir durant une heure.
Merci Cyril. Grégory Berkowitz, cette idée de la provincialisation, là, on a l'exemple allemand, il peut y avoir plusieurs raisons. Est-ce que c'est vous êtes pour cette provincialisation pour limiter le pouvoir, que le pouvoir soit divisé entre plusieurs personnes, plusieurs régions, qui n'appartiennent pas à un seul homme ou une seule institution ? C'est l'idée principale ?
Alors, en tout cas, l'idée principale, c'est pas forcément pour lutter contre un pouvoir totalitaire. Comme ça vient d'être très bien expliqué, c'est la réaction, effectivement, de la République fédérale d'Allemagne à la période du nazisme. C'est par contre pour lutter contre une tradition française qui date de la Révolution, pour faire simple, et qui est une hyper-centralisation des décisions administratives et politiques. Et cette tradition-là, elle vient de la période qui précède la Révolution, qui est une période, on en parlait à l'instant, de féodalité, même si, évidemment, le roi avait commencé à centraliser énormément de pouvoir, il n'en demeure pas moins qu'il y avait beaucoup de disparités entre les territoires, qu'on appelait les provinces.
Mais ce qui est fou, c'est que notre Constitution, la Constitution de la République, elle parle justement d'une République décentralisée. On a l'impression et on nous parle toujours de décentralisation, on a l'impression que c'est un mouvement entamé depuis de longues années. Pour vous, c'est du flan, il faut aller beaucoup plus loin que ça.
Alors, oui, c'est du flan. Pourquoi c'est du flan ? Parce que la décentralisation en soi, c'est l'État qui vous donne à un territoire, une compétence et qui peut lui retirer à tout moment. Je vais vous donner un exemple. Vous savez qu'il y a eu un mouvement un peu brutal du point de vue budgétaire en France, ça ne vous aura pas échappé. Mm-hmm. Et le début de cette brutalité, en tout cas le début des polémiques, ça a été de dire qu'il va falloir faire des économies et il va falloir notamment que les régions fassent des économies et ça va représenter plusieurs milliards d'argent en moins. Les régions ont hurlé, les territoires, les départements. Et j'étais au congrès des régions de France la veille, le lendemain du jour où ça avait été annoncé. Et je leur ai dit, écoutez, arrêtez de vous offusquer, parce que ce n'est pas votre argent dont on est en train de parler, c'est votre argent de poche. Vous n'êtes pas majeur, vous êtes mineur. Et l'État, et votre papa, vous donne de l'argent de poche. Bon, bah là, en ce moment, papa, il n'a plus trop de sous, hein, faut quand même le dire. En ce moment, c'est quand même un peu dur, les fins de mois. Bah, il ne vous donne pas votre argent de poche, et c'est tout. C'est ça, la décentralisation. Et c'est pour ça que, alors, peut-être pas avec un grand succès, si j'en crois Quentin, mais on a essayé de trouver, notamment avec le travail de mon éditeur, un mot pour remplacer fédéralisme. Et on a trouvé provincialisation. Le mot est peut-être pas parfait, mais c'est pour dire que c'est pas de la décentralisation, c'est d'une autre nature que la décentralisation, c'est plus proche du régionalisme ou du fédéralisme.
France Inter, Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Et si ce qui se passe à Montauban se décidait à Montauban ? Zoom cet après-midi sur la provincialisation, comment faire de la France une sorte de république fédérale. C'est l'idée de notre invité, l'avocat Grégory Berkovitch. Et Grégory, il faut être très concret. Ça serait quoi les compétences de ces provinces, puisqu'on parle de provinces ?
Alors, les compétences de ces provinces, ça doit être toutes les compétences qui sont mieux gérées en proximité qu'elles ne le seraient au niveau central. Alors, il faut vous donner des exemples. Alors, il y a un mot absolument barbare, c'est pour votre prochaine émission, qui s'appelle la subsidiarité.
Ah oui, c'est joli ça.
C'est pas mal ça. Hein, pour...
J'allais la proposer ce soir en réunion de...
Bon, je donne des idées, Quentin, j'essaye de participer un peu à mon modeste niveau. En gros, l'idée, c'est tout ce qu'on peut faire au niveau de la commune, où il y a un maire, où il y a une proximité avec le citoyen, on le fait au niveau communal. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire au niveau communal par définition. Et bien ça, on fait remonter au niveau supérieur, puis au niveau supérieur, et par exemple, l'armée, a priori, c'est pas une compétence qui va être transférée au niveau régional, c'est évidemment une compétence nationale qui doit rester entre les mains de l'État. Donc on déshabille pas complètement l'État, simplement on va raisonner à l'envers, plutôt que de dire tout est à l'État et de temps en temps on redescend des trucs, là on va faire l'inverse, on va dire la base c'est le citoyen, donc c'est l'unité de base qui est la commune, et puis ensuite, on va donner aux provinces la capacité de s'organiser comme elles veulent. Je ne réponds pas précisément parce que l'idée, c'est aussi que les compétences et l'organisation des territoires soient un peu à la carte.
On donnait l'exemple des Länder en Allemagne. Mm-hmm. On a vu qu'ils avaient leurs propres institutions, des parlements, des ministères pour gérer l'éducation, la police ou la culture. Est-ce qu'on est à quel degré dans votre vision de la provincialisation ? Ça va aussi loin que ça ?
Alors, d'abord, ça ne va pas nécessairement aussi loin que ça, et c'est pour ça que j'appelle plus ça le fédéralisme. Je dis plus que dans mon premier ouvrage, je parlais de fédéralisme. Mmh. Là, j'ai essayé de trouver un mot plus doux, parce que je vois bien que le fédéralisme en France...
Ça effraie.
Ça effraie. En revanche, oui, on pourrait tout à fait avoir des ministres, mais d'ailleurs, on a en France des ministres dans certains territoires.
Des conseils régionaux ?
Alors, non. Ah. Non, non. Même si certains peuvent effectivement se prendre pour des ministres, mais ce n'est pas le cas. Non, dans les territoires d'outre-mer, il y a des gouvernements. Si on prend la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie, dont on a beaucoup parlé, vous avez des systèmes gouvernementaux, vous avez des assemblées qui fonctionnent comme des parlements, et même en Corse, d'une certaine manière, on a l'équivalent d'un gouvernement, quelque chose qui est entre les deux, quoi.
Mais est-ce qu'on ne retourne pas sous l'ancien régime, vous en parliez tout à l'heure, avec les seigneurs, les barons locaux, même s'ils seraient élus, on reviendrait à ces campagnes un peu, je dirais, avec des barons, des seigneurs,
alors,
des nobles.
Oui, je comprends. Moi, j'ai un petit peu moins peur, en tant que citoyen, des barons, des ducs, je suis normand, hein, donc voilà, ou des vicomtes, que des monarques absolus. Et le monarque absolu, on n'en est pas complètement sorti dans ce pays. Le président de la République, c'est un président absolu dans un État absolu qui fait exactement tout ce qu'il veut. Bon, moi je pense que plus on va décentraliser, plus on va sortir
en ce moment,
de ce
on s'en rend compte, il y a quand même des pouvoirs, des contre-pouvoirs. On voit bien qu'il y a l'Assemblée.
Une situation exceptionnelle, qu'on n'a quand même pas souvent connue. Et malgré tout, on voit quand même qu'il a, à titre personnel et seul un poids sur nos institutions et sur la vie de notre pays qui est considérable et qui n'existe nulle part ailleurs autour.
Oui, mais vous pouvez nous dire, il faut une 6e République, on change le régime, on passe d'un régime présidentiel à un régime plus parlementaire, ça c'est possible aussi, sans aller jusqu'à une provincialisation. Pourquoi pour vous c'est l'idée géniale, la provincialisation ?
Parce que je pense qu'il y a plus de moyens dans notre pays de retrouver un lien fort entre le citoyen et la politique en gardant ce système centralisé au plan national. Et quand on regarde autour de nous, on voit bien que dans tous nos pays voisins, soit ce sont des États fédéraux, comme l'Allemagne, qui d'ailleurs n'ont pas toujours été fédéraux, ça a été très bien dit tout à l'heure, c'est du fédéralisme construit, soit qui sont devenus quasiment fédéraux, je vais donner un exemple qui est l'Italie. En Italie, on a une présidente qui, on peut le dire, est contestée par une partie de la population. J'ai discuté avec des amis italiens qui n'étaient pas forcément des fans de Madame Meloni, mais qui m'ont dit « bon, c'est pas très grave, parce que de toute façon, vous savez, dans notre quotidien, ce qui compte, c'est la commune et la région. »
Mais justement, du coup, si on applique cette provincialisation, que garderait l'État français ? Quelle responsabilité ?
Alors, tout ce qu'on appelle un autre mot pour
votre région,
le régalien. Merci Mathieu. C'est-à-dire, on garderait au niveau de l'État, évidemment, la police pour l'essentiel. J'ai bien dit pour l'essentiel parce qu'il existe déjà une police municipale, on la garde. Mais la police pour l'essentiel, donc la sécurité, la justice, l'armée, la monnaie, la diplomatie. Tout ça, ça reste au niveau de l'État. Et puis je fais un pari, peut-être j'ai tort, c'est que l'État aujourd'hui a beaucoup de mal à assumer ces fonctions-là. Si on reste sur ces fonctions, peut-être qu'il les assumera mieux.
Si la France devenait une fédération, il postulerait immédiatement pour devenir le président du Länder normand. Son programme, plus de liberté pour les entrepreneurs, moins de liberté pour les chiens, et surtout la création d'un circuit de karting Charles Leclerc dans la zone industrielle d'Alençon. Quentin, vous êtes prêt, mais en attendant que
de
faire
un très beau circuit de karting près d'Alençon.
Oui, c'est vrai.
Qui s'appelle Essai.
Et vous, vous avez déjà performé sur ce
bien
circuit.
Bien sûr, oui.
Vous avez déjà gagné.
J'ai gagné une course là-bas.
Très bien.
Très bien. Une course. Je vais voir les images de ça. En attendant que notre République devienne fédérale, vous êtes allé poser la question aux passants dans la rue. La provincialisation est-elle la solution ?
C'est dans les rues de la capitale, donc au cœur du pouvoir centralisé à la française, que je suis allé vérifier si les Parisiens, qui n'en sont pas toujours, étaient prêts à décentraliser. Emmanuel a 68 ans, c'est un ancien conservateur de musée. Il découvre...
La provincialisation, c'est... Alors, province, ça ne s'utilise plus beaucoup. On parle de région. Province, c'était un peu péjoratif. Moi, j'ai trouvé ça toujours assez joli, la province. C'est la France, quoi. La France qui est toute petite, mais qui a pourtant tellement de provinces. En France, on a l'impression que c'est Paris et la province. Alors que des villes comme Lyon, Bordeaux, Marseille, Toulouse sont des capitales.
Alors je demande à Emmanuel si la France peut devenir un État fédéral.
Ah, alors on est trop petit pour être un État fédéral, je pense. Ouais, c'est tellement... on peut se déplacer quand même d'un endroit à l'autre assez rapidement en France. Donc est-ce que c'est pas un peu une solution gadget ou une sorte d'effet d'affichage.
Je sais pas, est-ce que ça rapprocherait pas quand même le pouvoir des gens et des villes et des régions et des provinces ?
Ah oui, pourquoi pas ?
Ouais.
Mais bon.
Je le sens sceptique hein, sur mon histoire. Alors la France est-elle trop petite ? Est-ce vraiment la taille qui compte ? Je lui rappelle le découpage territorial effectué...
Beaucoup d'autopsychanalyse dans cette chronique.
Je lui rappelle quand même au passage le découpage territorial effectué en 2014 sous le président Hollande.
Alors ce qui est drôle en France, moi je me souviens quand on a donné le nom aux régions... justement, il y en a qui disent « moi je ne suis pas du tout occitan » ou « moi je suis de la Vendée, j'ai rien à voir avec la Saintonge ». Et alors on se dit là, c'est la France au fromage, hein, c'est ce que disait De Gaulle. Comment peut-on gouverner un pays comme ça, quoi, qui a autant de fromages, qui a plus de 400 fromages ?
Ouais, j'avais oublié cette citation de De Gaulle, mais elle n'est pas forcément fausse. Elle n'a pas connu le général au pouvoir. Bonjour.
Bonjour.
Quel est votre prénom à vous ?
Marie.
Marie, vous avez quel âge ?
19 ans.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous ?
Je suis étudiante en lettres modernes. La provincialisation.
Vous avez grandi où ?
J'ai grandi dans le sud de la France, et puis après j'ai déménagé dans le centre de la France, en Bourgogne.
Je lui explique l'État, les régions, les départements, les communes, les communautés de communes, les conseils départementaux, les préfectures, le millefeuille territorial.
C'est le métier de ma mère, alors si je dis des bêtises, elle va me hurler dessus.
Sans la nommer, elle fait quoi ta mère ?
Elle est directrice générale des services dans une mairie, et elle me dit que des fois c'est compliqué parce qu'elle reçoit des ordres, et sauf qu'après il faut qu'elle les applique à elle, sa petite commune, de très peu d'habitants, quoi. Ouais. Elle me dit, mais ils nous donnent des trucs, ils se rendent pas compte que c'est irréalisable là où on est, quoi. Enfin, que c'est... qu'ils prennent pas trop en compte la différence entre la ville, vraiment la capitale, et les toutes petites communes de province et de la campagne, quoi.
Lui, il marche les mains dans les poches, un bonnet qui tient chaud, une écharpe colorée, des yeux rieurs derrière les verres de ses lunettes.
Bonjour, bonjour.
Est-ce que je peux avoir votre prénom ?
Artaban.
Vous avez quel âge, Artaban ?
29 ans.
Et votre truc dans la vie, c'est quoi ?
Franchement, voyager. Je viens de rentrer de vacances du Brésil.
Ah bah c'est ça la bonne mine, la bonne humeur. Bah oui, il fait moins 4 à Paris, super. Il découvre le thème qui nous intéresse aujourd'hui.
La provincialisation.
Est-ce que la France doit devenir un État fédéral ?
Je pense qu'elle pourrait. Moi, je suis partisan de la décentralisation du pouvoir en France. Le fait d'avoir un État centralisé pourrait nous causer des torts, ne serait-ce qu'une élection présidentielle, par exemple. Ou si on prend le cas d'Italie, où c'est les provinces et les régions ont énormément de pouvoir, et elle, Giorgia Meloni a moins de facilité pour mener à bout sa politique. Alors qu'en France, si le cas s'avérait que l'extrême droite arrivait au pouvoir, je pense que les dégâts seraient plus conséquents.
Alors l'exemple italien est-il bon ? La décentralisation serait-elle un garde-fou face aux dérives d'un pouvoir autoritaire ? Lui, qui connaît bien le pays dont il revient, parle d'un autre exemple.
Le Brésil, par exemple, si je prends le cas de la crise du Covid, on a eu des directives présidentielles à l'époque de Bolsonaro, mais bon, qui n'ont pas été suivies. Parce que les États avaient plus de pouvoir et ont réussi à mettre en place certaines mesures sanitaire plus poussée.
Elle résonne cette idée d'une France fédérale trop petite pour les uns, carrément faisable pour les autres, pour morceler le pouvoir et recréer du lien entre les politiques et les citoyens, de cette France aux provinces si belles et si différentes dont nous pouvons être fiers, fiers comme Artaban bien sûr. Il n'y a pas de virgule, visiblement.
Pas de virgule, c'est Bertin, notre éditeur, qui me disait...
Il a perdu la virgule.
Il me disait, on n'a pas la virgule moche, me disait-il. C'est vrai, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Mais elle a beau être moche, elle manque quand elle n'est pas là. On l'embrasse. Grégory Berkovitch, la France fédérale et les régions seraient un rempart politique si jamais l'extrême droite arrivait au pouvoir. Ça, c'est un argument auquel vous avez pensé ?
Alors, oui, puisque c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, et je tiens à préciser que... je n'avais pas entendu les réactions
oui,
de la rue.
Et donc, que ça soit joint.
Donc c'est amusant que quelqu'un qui voyage tout de suite se dise « Bah oui, c'est vrai, en Italie, on n'aurait pas ce problème. Enfin, il n'y a pas ce problème avec autant d'acuité qu'on l'aurait en France. Mais c'est vrai de beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y a quand même un durcissement en France des positions politiques. Et à partir du moment où vous avez un système où il y a plus de pouvoir localement, là, vous avez aussi... Bah oui, ça dilue et vous avez plus d'équilibre. Et d'ailleurs, on le voit, hein, quand vous avez des hommes politiques qui ont un rôle local, et malheureusement aujourd'hui c'est de moins en moins vrai.
Ils mettent beaucoup d'eau dans leur vin.
Quand ils sont en local, oui. Ça n'a rien à voir, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes.
François Bayrou est maire de Pau, par exemple.
Bah oui, justement, lui il met plein d'eau dans son vin, tellement d'eau qu'on sait plus où il va. Pardon.
Oui,
pardon. Je m'engage peut-être un peu.
Sans m'engager, mais par exemple quelqu'un comme Philippe de Villiers était pas du tout perçu de la même façon localement et nationalement. Pas du tout.
On a entendu Marie, 19 ans, qui nous parle de sa maman qui travaille dans une petite mairie. Ouais. Il y a une vraie déconnexion parfois entre les décisions prises dans une capitale et le contexte d'un petit village. Vous l'observez ça ?
Mais complètement. Et c'est vrai, même des textes, c'est-à-dire des lois qui sont votées, vous voyez qu'il y a des lois qui sont faites pour Paris et inversement, vous voyez qu'il y a des lois qui sont inapplicables à Paris. Vous avez des choses qui sont parfaitement logiques en Île-de-France. Je suis juriste, hein, ça a été dit, donc je suis un garçon assez rationnel et au début, je m'étais dit, on va supprimer les départements quand j'ai commencé à bosser là-dessus. Bon, parce que c'est une vieille idée des juristes de supprimer la couche départementale. Bon, pour justement limiter le millefeuille. Je me rends compte qu'il y a des territoires où les départements ont un rôle indispensable, extrêmement important. Il y a des territoires comme l'Île-de-France ou la Bretagne où, objectivement, les départements ont quand même pas du tout le même rôle, quoi.
Mais non.
Il y a l'exemple, on parle de l'exemple allemand, mais aussi l'exemple américain. 50 États qui n'ont pas du tout les mêmes lois. Certains ont banni, par exemple, l'avortement dans leurs propres États. C'est quoi ? C'est un bon exemple pour vous, l'Amérique, ou c'est encore totalement différent ?
Non, alors pour moi, ce n'est pas un bon exemple. Tout à l'heure, on a parlé de l'Allemagne, où il y a un fédéralisme qui est construit, même s'il y avait quand même à l'origine des Länder, il y avait à l'origine aussi des royaumes. Mais c'est un fédéralisme construit, et donc avec un certain équilibre. Les États-Unis, c'est un fédéralisme qu'on appelle ascendant, c'est-à-dire où on part d'États qui existent et qui se rassemblent entre eux. Donc, ils ont tous les pouvoirs et ils vont devoir en abandonner. Et là, évidemment, on n'est pas du tout dans la même démarche, parce qu'abandonner des pouvoirs, c'est beaucoup plus difficile que d'en recevoir, surtout quand on est un homme ou une femme politique. Et donc, les États ont eu du mal à lâcher certaines prérogatives aux États-Unis. C'est un système qui ne fonctionne pas si mal que ça, mais qui fonctionne aux États-Unis parce que c'est les États-Unis. Enfin, je pense qu'il n'est pas transposable. En France... par exemple, c'est évident que les droits fondamentaux, que d'ailleurs dans mon bouquin, je propose une charte des droits, mais je ne la propose pas par hasard, c'est parce que c'est absolument nécessaire, parce qu'il faut que l'État maintienne une certaine cohésion nationale.
France Inter, Zoom Zoom Zen.
La France est-elle prête pour le fédéralisme ? Une citation célèbre de Manon, mais ça existe encore ? Ça existe en vrai, Coulommiers ? Tant à prouver que non, pas encore tout à fait prête. Pour vous y préparer et changer les mentalités, jouons avec les secrets de nos belles régions. C'est l'heure du Zoom Zoom Test. Ah, la province. Un paradis pour Pierre Courade, notre farfadé des terroirs, enchantant Instagram avec ses escapades dans la Sarthe, le pays angevin ou encore la Bigorre. Pour Manon, c'est autre chose, car au-delà du périph, pour elle...
Quel enfer ! Ah oui.
Il n'y a pas si longtemps, d'ailleurs, elle pensait qu'il fallait se faire vacciner pour aller dans ce que Jean-Pierre Raffarin appelle le Poitou et ce qu'elle appelle le Mordor. Respirez fort, Manon, pour vous calmer, fermez les yeux et pensez très fort à quelque chose qui vous rassure, comme un bar à pain bio du 11e arrondissement. Attachez vos ceintures, nous partons pour Quiz sur Yvette, sous-préfecture de la province du Gai-Savoir.
Oh là là,
et on commence là où j'ai mes racines. On commence là où j'ai mes racines, Manon Quentin, évidemment. Oui,
Genève.
La Corse.
Mais non, mes autres racines. Nice.
C'est... Il est de partout.
Ouais, je suis de partout.
Et donc, nulle part.
Si Éric Ciotti, ce preux chevalier dont le crâne brille plus que ce qu'il y a à l'intérieur, était né à Nice en même temps que ses idées, c'est-à-dire à peu près en 1860, eh bien, il n'aurait pas été français. Car avant 1860, le comté de Nice était rattaché à quoi ? À la République italienne ? Au royaume de Sardaigne ? Ou au royaume de Lombardie ?
Ah.
Je vous propose une autre réponse.
B.
C'est une catastrophe. C'est officiel, c'est une catastrophe, les amis. C'est
pourtant une bonne réponse.
Au-delà du mot catastrophe, le mot honte est celui qui me vient à l'esprit. Réponse B. Le comté de Nice n'est devenu français qu'en 1860, en effet à la faveur du traité de Turin. Avant, Nice était sarde, comme le tonton milliardaire de Quentin. D'ailleurs, la Sardaigne était aussi implantée en France que les Naturalia dans le 10e arrondissement, puisqu'une autre région en faisait partie à cette époque, avant ce traité de Turin. S'agit-il du comté de Montbéliard, du comté de Savoie ou du comté 24 mois ?
A.
B.
Comté.
B.
Comté. Comté.
B.
C'est bien, c'est venu à temps l'extrait.
Il est venu parfaitement. Ce qui me permet, et ce qui me permet même de prolonger parfaitement la vanne que j'avais dessus, comme si de rien n'était. Le comté 24 mois, dont l'odeur entêtante n'est d'ailleurs pas sans rappeler celle de notre studio hier après-midi.
Oh, oui,
je peux vomir, avait dit Manon. Je bande, avait dit Cyril. Bref, votre réponse.
Moi j'ai dit A.
Vous avez dit A, oui.
Et moi j'ai dit B.
Vous avez dit B, c'est une bonne réponse de Quentin. Oui, oui, réponse B. Le comté de Savoie, qui est, précisons-le, un faux ami, puisque c'est le Beaufort et de Reblochon qui viennent de Savoie, pas le comté. Vous me suivez ?
Non.
Vous me suivez pas. Bon, je sens que vous avez perdu. Décidément, dès qu'on élève le niveau, il n'y a plus personne dans cette émission. Oh. C'est comme si...
Je suis une cruche.
Voilà, bien résumé, Quentin. Mais revenons à Montbéliard. Voilà une... Beaucoup trop de son dans ce quiz. Voilà une autre... Et qui part pas au bon moment. Voilà une autre région qui longtemps n'a pas été française, les amis. Puisque jusqu'en 1793, année de la décapitation de Gonzague de la Carrière, le comté de Montbéliard était... Sarde, encore une fois,
encore
rapport au comté. Suisse, rapport à la fiscalité. Ou germanique, rapport à la saucisse.
C'est...
B. C'est
vos saucisses
c'est
qui a été
aussi motivé par la
un
saucisse.
Signal pour vous, visiblement. Vous
c'est pour être rapide.
Vous avez littéralement sauté dessus. Alors, c'est une bonne réponse. Au hasard, visiblement, bonne réponse.
Ah ouais.
Et oui, Montbéliard était allemand avant la Révolution. Cyril, un peu comme votre papy après 1940. Mais laissons l'histoire juger et téléportons-nous maintenant en 1960. Alors attention, cette question me tient à cœur puisqu'elle a trait à mes racines. Manon, Quentin, mes racines, évidemment.
Saint-Tropez.
Mais non, enfin, la Corse.
Oh, tu reviens.
Nous sommes en 1960,
non, possible,
soit en l'an 9 avant Patrick Fiori. Et 1960, c'est aussi l'année de la création de la région Provence-Côte d'Azur-Corse, l'année où la Corse est enfin séparée de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, ou l'année où mon village de Tivolage a été élu plus beau village de Corse.
B et C. Allons-y.
Ouais, les...
A.
Alors, je suis un peu embarrassé, parce que la bonne réponse c'est la A, mais j'ai presque envie de vous donner les points maintenant. Cette idée de que mon village serait le plus beau de Corse.
Donnez-lui quand même, ça changera rien.
Non, c'est pour vous, Quentin, il faut être précis, Donc à l'époque, être Bastier ou Niçois, c'était la même chose, un trauma qui se terminera en 1970, date où la Corse devint une région à part entière. Enfin, pour terminer, une information qui va peut-être surprendre jusqu'à François Bayrou, qui jusqu'au 17 décembre pensait que Mayotte n'était pas sur le territoire national. D'après vous, Manon Quentin, quelle proportion du territoire français se trouve en dehors de l'Europe ?
De l'Europe,
oui, pourcentage ? Presque un cinquième, pas loin d'un dixième,
non.
Ou à peine un tiers.
A.
Bah non, B.
C'est une bonne réponse de Manon Mariani. Les Outre-mer, qui doivent se coltiner des cyclones et Manuel Valls comme ministre, représentent en effet 17,9% du territoire.
Énorme.
Et car oui, je vous le dis droit dans les yeux, 17,9%, c'est presque un cinquième. Les chiffres sont comme Paul Bismuth.
Presque, ouais.
Ils ne mentent pas. Le compte est bon. C'est une victoire, une de plus, pour Manon Mariani.
Merci.
Bravo Manon.
Elle en est même surprise.
Et je tiens à préciser que Tivolage est un très très beau village, qui a été élu non pas le plus beau village de Corse, mais le plus petit village de Corse.
C'est vrai.
Oui, tout à fait.
Il l'a déjà dit. Franchement,
c'est vrai.
C'est vrai.
Je l'ai déjà dit à l'antenne, c'est l'âge probablement.
Cyril me dit en régie, on s'en fout, voilà. Bon.
On s'en fout, très bien,
de tout,
très bien, très bien. Je saurai l'accueillir quand il reviendra autour de la table tout à l'heure. Faire de la France une fédération, c'est la proposition de l'avocat Grégory Berkovitch, qui est notre invité pour son livre « Libérons nos provinces, manuel pour transformer la France en république fédérale » qui vient de paraître aux éditions de l'Archipel. Grégory, pour devenir une sorte de fédération, la France doit libérer ses provinces, c'est ce que vous écrivez, c'est ce que vous souhaitez. Vous proposez une méthode. On y va crescendo. D'abord, la libération de la Corse. Ce sont vos termes. Hein. C'est quoi la libération de la Corse ?
Alors, je propose une méthode parce que dans mon premier ouvrage, moi j'étais un peu parti, bille en tête, en me disant « Allez, on va transformer la France en État fédéral. J'ai même proposé une constitution. Tout est prêt, vous avez juste à signer. » Il y a eu quand même une vraie levée de bouclier, c'est le cas de le dire. En France, c'est normal. Même la préface de mon bouquin, c'était par Jean-Louis Borloo, il y avait dedans, Grégory nous présente une formidable utopie. Donc je me suis dit, oui, bon, ok, on n'est pas prêt, j'ai compris. Donc on va revenir au chapitre précédent et voir comment on peut y arriver. Et une méthode un peu progressive. Et cette méthode un peu progressive, pourquoi je commence par la Corse ? D'abord parce que j'adore la Corse, et je le dis évidemment pour avoir
c'est
les
bien de
faveurs de Mathieu. Quand on est dans une émission, c'est important quand même.
Très important.
Voilà. Mais il y a une deuxième raison, c'est que... vous le savez sans doute, mais il y a un débat très important actuellement sur l'évolution des institutions en Corse. Il y a eu des promesses qui ont été faites par l'État. Il y a des débats sur qu'est-ce qu'on peut ou pas transférer à la Corse, qui est déjà très avancé et qui surtout a une identité insulaire, évidemment, mais pas que. Et puis des institutions qui sont déjà dérogatoires du reste de la France métropolitaine.
Donc ce serait facile, quelque part
Ce serait plus facile, ce serait cohérent avec le mouvement politique engagé. Et effectivement, ça permettrait, à mon avis, de trouver les conditions d'un ancrage de la Corse dans la République française.
Plus fort, quelque part, qu'aujourd'hui,
je le crois.
Paradoxalement. Quentin ?
J'ai trouvé une proposition dans votre livre que j'avais pas lu ailleurs. Vous voulez répartir la plupart des institutions à travers le territoire. L'Élysée et Matignon restent à Paris. L'Assemblée nationale serait à Marseille, le Sénat à Lyon, le ministère de l'Éducation à Toulouse, la Défense à Toulon. Ça rajouterait pas du bordel au bordel ?
Bon, alors...
Vous en mettre une, Quentin.
Là, attention. Non, parce que j'ai quand même écrit aussi que c'était une provocation.
Ah,
voilà. Je l'ai écrit en intro de ce petit chapitre. Je pense que si on va au bout de la logique, en tout cas, d'avoir des institutions centrales décentralisées,
c'est un bon signal.
Très bon signal.
Le conseil des ministres. Vous imaginez tous les ministres qui doivent aller.
Alors ils sont pas tous.
Niveau écologie, c'est pas
visio,
top.
C'est en visio.
Je vous rappelle que le conseil des ministres, il y a pas tous les ministres du tout.
Ouais.
Voilà.
Voilà.
Ensuite, je pense qu'aujourd'hui, on peut faire quand même pas mal de choses en visio, et c'est pas parce que un ministère serait situé ailleurs qu'il y aurait plus rien à Paris. De toute façon, aujourd'hui, vous avez déjà, d'une certaine manière, ce genre de choses qui existent, soit avec des agences, soit avec des établissements publics nationaux qui sont en province.
Mais
ça fonctionne pas si mal que ça.
577 députés, il faut que ça reste à Paris. Ça doit rester à Paris.
Oui, non mais ça pourrait rester à Paris. Cela dit, ça fonctionne au niveau européen entre deux villes et c'est pas la fin du monde.
Comment on fait pour le budget ? C'est le grand débat du moment. On n'arrive pas à boucler le budget de la France. Le budget, il ressemblerait à quoi ? Parce qu'il serait subdivisé en plein de budgets de chaque province.
Alors déjà, il y a aujourd'hui autant de budgets que de collectivités. Mais surtout, L'une des raisons fondamentales pour laquelle, à mon avis, la provincialisation est une bonne idée, cela dit, c'est une bonne nouvelle que je trouve que c'est une bonne idée.
C'est la vôtre.
Bon, jusque-là, il y a une certaine cohérence, oui. C'est les aspects budgétaires. Aujourd'hui, les collectivités, elles ont ce qu'on appelle la règle d'or. Elles n'ont pas le droit de voter un budget en déficit. Ça veut dire que si l'État était astreint d'abord à la même règle, ben, il n'y aurait pas de déficit. Bon, ce serait pas mal. On aurait beaucoup de débats en moins à l'Assemblée. Hein. Franchement, il y aurait des discussions qu'on se serait épargnées. Et deuxièmement, si on transfère les compétences, il faut bien tenir, maintenir la règle d'or. Et l'État, si on lui laisse uniquement les compétences régaliennes et la cohésion, bah, ce sera aussi plus facile de tenir un budget.
Mais Manon, qu'en pensent les populations locales ? Elles ont envie, vous pensez, de cette provincialisation ?
Alors, depuis 2 ans, je rencontre pas mal de gens dans les conférences, les débats, etc. Majoritairement, et je ne le dis pas parce que ça m'arrange, mais majoritairement, les gens sont pour. Okay. Les élus locaux, c'est un peu différent. Certains sont très favorables, et il y en a même un certain nombre qui ont soutenu la démarche. On a créé une association et il y a un certain nombre d'élus qui soutiennent la démarche. En revanche, il y en a certains qui sont beaucoup plus prudents et qui ont un peu peur d'avoir ce genre de responsabilité parce que c'est confortable, l'État. Quand ça marche pas, je peux dire, bah oui, ça marche pas parce que c'est l'État. Comme d'ailleurs l'État dit souvent, bah ça marche pas, mais c'est à cause de l'Europe.
En deux mots, est-ce qu'il y a un parti politique actuel qui soutient cette démarche ?
Surtout pas. Alors, surtout pas. Il y a des partis politiques qui s'intéresse à cette démarche. Il y en a plusieurs. Il y a des hommes et des femmes politiques qui soutiennent cette démarche. Je ne voudrais surtout pas la limiter à un parti.
Qui s'intéresse ?
Alors, le Parti radical, l'UDI, s'intéresse à cette démarche. Et parmi les hommes ou les femmes politiques, bah, vous avez un certain nombre d'élus locaux, je ne peux pas tous vous les citer, mais qui, effectivement, ont soutenu cette démarche. Et certains ont même rejoint l'association qu'on a créée. Je fais un moment de pub. www.liberon-no-province.fr.
Mais faire un petit peu de pub, ça n'a jamais fait de mal à personne. Vous écoutez France Inter, il est 16h47. L'heure de découvrir l'autre personne à suivre, Manon.
Je vous présente Salomé Berliou. Elle a la trentaine, elle est française et elle s'est fait connaître pour son engagement pour la jeunesse des zones rurales et périphériques. Cette diplômée de Sciences Po en master affaires publiques s'est fait connaître en 2016. Elle fonde l'association Chemin d'Avenir qui vise à accompagner les jeunes issus de territoires ruraux. Elle souhaite briser l'isolement et les plafonds de verre auxquels ils sont confrontés. Et elle sait de quoi elle parle, car elle-même, elle vient de cette France périphérique. Salomé Berliou grandit dans un hameau de 180 habitants dans l'Allier avant d'aller étudier dans une grande ville où elle s'est sentie déconnectée. Elle n'avait pas les codes, dit-elle. Pour donner plus de visibilité à ces jeunes de province, en plus de son association renommée aujourd'hui Rura, Salomé Berliou écrit aussi des ouvrages. Celui qui lui a permis de se faire un nom s'appelle « Les Invisibles de la République », sorti en 2019. Un livre qui fait écho au mouvement des Gilets jaunes et pour lequel elle est allée interroger des jeunes issus de zones rurales. Elle demande est-ce qu'il y ait un plan périphérique comme il y a eu un plan des banlieues. C'est pour ça qu'en 2020, elle a été missionnée par Jean-Michel Blanquer, alors ministre de l'Éducation nationale, pour lui remettre un rapport sur l'orientation et l'égalité des chances dans la France des zones rurales et des petites villes. Salomé Berliou y a formulé des propositions pour lutter contre l'assignation, je la cite, à résidence des jeunes ruraux. La même année, elle sort son essai « Nos campagnes suspendues » consacrées aux fractures sociales dans les zones rurales après le confinement. Et la semaine dernière est sorti « Loin de Paris », un ouvrage qu'elle a co-dirigé où 26 auteurs issus de la ruralité partagent leur point de vue sur le sujet, le but, parler aux 40 millions de Français issus de la ruralité, trop peu souvent représentés et que des profils comme celui de Salomé Berliou se battent pour mettre en avant.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Lui, la provincialisation, il l'appelle de ses voeux. Il a même été élevé dans le culte de la décentralisation. Un jour viendra, lourd de la sacrée se débarrassera de la tutelle païenne de Paris, lui disait l'abbé Chibrard en accompagnant sa tête durant la séance de catéchisme. Pierre Fourade, chaque après-midi, vous faites fi de ces souvenirs qui vous laissent un goût amer pour nous résumer le plus impartialement possible. Et c'est important, l'impartialité, ce qu'on s'est dit avec notre invité.
En toute impartialité, à Lourdes aurait déjà dû être au moins sous-préfecture. Je déplore d'ailleurs que notre invité ne propose pas de découper la Bigorre en province, alors que l'Auvergne fait partie de votre projet. Mais bon, passons. L'idée que Grégory Berkowitz est venu défendre dans notre studio pendant une heure, c'est de revenir aux frontières historiques et culturelles de la France, le Pays Basque, la Bretagne, l'Alsace, la Normandie, pour en faire une fédération, une république fédérale à l'image de l'Allemagne, par exemple. C'est ce qu'il appelle la provincialisation. L'inverse de diviser pour mieux régner, dans son esprit, parce que Paris n'aurait plus tous les pouvoirs, ce serait la fin de l'hypercentralisation. Il va falloir territoire vraiment décentralisé, nous a-t-il dit. Manon va découvrir le Limousin, Quentin va découvrir Paris du coup. Pour cela, Grégory Berkowitz propose que les institutions elles-mêmes quittent Paris, le Sénat à Lyon, l'Assemblée nationale à Marseille. Pas de point de chute en revanche pour le moment pour la Maison de la Radio. Je vous propose qu'on choisisse hein, du coup Fort-de-France, Tahiti,
Paris.
Ah ouais. Chez GC, il y a de la place hein, pour tous nous
à Mykonos, hein. C'est pas en France.
Il y a de la place dans son petit intérieur, je crois. Être plus près des complexités territoriales, ça permettrait, d'après notre invité, de répondre plus précisément aux attentes des Français. Les provinces auront plus d'autonomie de décision. Elles prendront en charge tout ce qui est plus simple hein, de décider au niveau local. Notre invité n'est pas plus précis, désolé. Mais grosso modo, l'État ne garderait... désolé. C'est ce que nous a dit notre invité en tout cas. Mais grosso modo, l'État ne garderait plus que la défense, la justice, la monnaie, la diplomatie. Et ça ferait en plus des économies.
Non seulement il vous a appelé Grégory Berkowitz, alors que c'est Berkowitz, bien sûr, et en plus, il vous reproche de ne pas être assez précis.
Bon, et en plus,
merci. Merci.
Je pense que sur votre site internet, on peut faire des propositions.
Dedans, c'est écrit.
Il y a des tableaux, il y a des tableaux. Page 166.
Page 166, on trouve la réponse, mais il faut acheter le livre.
Ah oui,
c'est 19,90€. C'est bien joué, Grégory. Et maintenant, qui de mieux pour intervenir sur ce sujet que notre petit provincial à nous, GC.
Hey, Mathieu, je suis pas provincial, j'ai déjà dit. J'ai l'air de quelqu'un qui porte des slims. Ça fait 12 ans que je vis à Paris. À force de respirer le périph', j'ai les poumons de Jeanne Moreau. Hein. Et à cause des selles d'Evélib, j'ai le cul plat. Donc provincial, je crois pas, non. Hein. Merci de respecter mes sacrifices, en fait. 8h17. Ça vous dit quelque chose, Mathieu ? Non ? Et c'est pas le temps ressenti de la chronique de Pierre Courral.
Et t'es court,
c'est ça, c'est le... Non, pas du tout. C'est le temps que j'ai perdu à faire la queue pour des expos dont je me souviendrai même pas. Hein ? Tout ça pour pouvoir dire à la cantoche d'Inter oh, « Vachement bien, Kaibot. » Ah, j'ai pris une claque. Rodko, en revanche, la semaine dernière, 2 heures, un enfer. On me le rendra jamais. C'est évidemment des discussions que j'ai avec des gens de la matinale. Hein, pas avec des gens qui ont une émission l'après-midi. Ils comprendraient pas. Donc franchement, pardon, mais je crois que je suis parisien. Là, hein, je fais même un effort pour plus dire bonjour à mes voisins. Ah, ça ok, j'avoue, la politesse, c'est ce qui m'est resté le plus longtemps de mon village. Mais c'est derrière moi. Maintenant, je leur tiens même plus la porte à ces clochards. Ah, c'est chacun pour soi. La petite mamie qui a besoin de monter ses courses, bah je sais pas, elle a un bifton, non ? Non, bah alors il y a l'ascenseur juste là, 120€ de charge, il me coûte. Hein. Donc elle va l'utiliser, la vieille. Oui, mais il se bloque. Il se bloque, madame ? Bah c'est pas grave, ça vous entraînera à rester dans une boîte. Hein. Je fais bien la voix de la vieille. Hein. Non, mais je sais pas, personne le dit. Merci, c'est à force de faire des jeux de rôle avec mes plans cul. Bah, vous jouez jamais à l'EHPAD ? Mais non, mais c'est hyper excitant. Et puis c'est con, Mathieu, avec tes cheveux blancs, je suis déjà dedans. Ah, mais moi, 12 ans à Paris, je vous dis, j'ai l'humanité de Pascal Praud. Vous m'auriez invité il y a une dizaine d'années, je débarquais de mon bled en Côte d'Or, j'étais sympa, hein, j'avais encore du crottin sous mes chaussures et de l'espoir pour la gauche. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que j'ai appris hein, que je parlais pas français. Mais bourguignon, apparemment, va indieu, je suis gaugée. Et pas compris dans un coffee shop du 11e. Vous savez ce que ça veut dire ?
Non.
Que mon date m'a pas baisé. Pareil pour les prénoms, hein, je pensais qu'il y avait toujours un le devant. Enfin, moi j'ai toujours entendu ma grand-mère dire ah, oh, bah c'est le GC, que chez le Mathieu Noël, tiens, il est bon ce gars-là. Je plaisante, Mathieu, ma grand-mère sait pas qui vous êtes. En revanche, elle m'a demandé s'il était sympa le Ruquier. Oui, elle confond Ruquier et Nagui. Pourtant, j'ai beau lui dire hein, mais mamie, il y en a un qui est gay et l'autre qui présente les grosses têtes. Mais il n'y a pas moyen. Puis quand tu lui dis ça, elle est là. Eh là donc, je suis pas ben dru, hein, mais je suis pas encore moribonde. Ah, c'est une vraie tête de pioche. Au village, on l'appelle Cyril la carrière. Ma grand-mère, c'est la mémoire du patelin. Non, mais c'est vrai, hein. Et on n'a pas ça à Paris. Hein. Enfin, en même temps, je le saurais pas, vu que je parle plus aux vieux de l'immeuble. C'est bête, en fait. C'est trop bête. Oh, ça m'a rendu un peu nostalgique, tiens, de parler patois. Mais non, qu'est-ce que je raconte ? N'importe quoi. Je suis pas provincial. Pas. Je suis pas provincial. Mince, après 12 ans, j'ai toujours du mal à prononcer. Putain, c'est sûr qu'on va savoir que je suis un cutéreux. Hein. Bon, faudrait peut-être que je l'accepte, en fait. Comme Pierre Courat, quand on lui dit qu'on n'est pas intéressé.
Pardon, je sais.
Finalement, votre livre sur l'État fédéral, j'ai pas peur de le dire. Finalement, votre livre sur l'État fédéral, Grégory, l'idée, c'est d'accepter notre part provinciale. Hein. Au final, vous avez écrit un livre de développement personnel, en fait, qui aurait juste dû s'appeler « Comment devenir allemand hein. ». Ah oui, bah c'est vrai. Bon, c'est un peu moins vendeur comme titre. Hein. Puis ma grand-mère l'aurait pas acheté, je peux vous dire. Alors que moi, j'ai jamais rechigné devant une wurst. Allez, Allez, j'ai commencé cette chronique parisien. Je la referme comme un bon bourguignon en vous disant « Faut pas oublier d'où te vient, gamin, te sais pas encore où te sera demain. » À bon entendeur.
Merci, j'essaie à très vite dans Zoom Zoom et sur scène très bientôt dans votre spectacle Message Personnel tous les jeudis et vendredis au Petit Palais des Glaces à Paris jusqu'au 28 mars et ensuite en tournée au printemps partout en France, Suisse et Belgique.
Oui, et on a rajouté Bastia et Clermont-Ferrand en mars et en avril.
Mais c'est complètement dingue ce qui vous arrive. Merci Grégory Berkovitch de nous avoir exposé votre vision de la provincialisation. Je rappelle votre livre Libérons nos provinces, manuel pour transformer la France en République fédérale. C'est aux éditions de l'Archipel. Zoom Zoom Zen.